franceinter.fr.
Merci d'écouter France Inter, il est 14h05, tout de suite c'est CO2 mon amour. Bonjour Denis Chetou.
Bonjour Soline Demestre, et oui la voix est libre. On va parler avec Marie Monique Robin des moissons du futur, de l'agroécologie. Donc un sujet tout à fait intéressant. Et on vous retrouve pour les informations de 15h.
CO2 mon amour, avec l'énergiemoinscher.com, site d'information sur les primes énergie de Leclerc.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie ?
L'écologie.
Et dans l'écologie, la diététique ?
C'est passionnant, ça.
Vous connaissez la doctoresse Kousmine ?
Non.
C'est un génie.
Et la macrobiotique ?
Ça, oui, un peu. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là ?
Ils disent qu'on mange de la merde.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaye, qui prend le temps de ne pas aller trop vite, avec aujourd'hui Michel Bézikian et Eric Morin à la technique, et assisté de Stéphane Combe, et bien c'est Christophe Imbert qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur en forme d'actualité. La nuit, tous les chats sont gris, sauf les blancs. Même le jour de la nuit, qui est un très joli titre, le jour de la nuit. C'est une manifestation en fête nationale qui est très optimiste, hein, vu le temps. Aujourd'hui, donc, il s'agit de redécouvrir son ciel étoilé. L'éclairage artificiel fait disparaître la nuit noire, on le sait. Les oiseaux migrateurs n'aiment pas, les chauves-souris non plus. Et aujourd'hui, eh bien, ça commence. Alors, très doucement, mais on éteint quand même dans les communes quand l'éclairage public est inutile et on éclaire un peu mieux. C'est donc ce soir dans toute la France, car figurez-vous qu'il s'en passe la nuit des choses. Et oui, vous laissez passer le chien, vous laissez passer le loup. Le ciel se charge d'étoiles et au-dessus des pizzerias ambulantes, eh bien on peut, dans la bonne odeur des quatre fromages au four, lever le nez de son match de football et regarder le ciel. Alors, monsieur le maire, dans sa grande sagesse, a peut-être fait éteindre tout ou partie de l'éclairage public pour l'occasion, qui lui coûte un bras. Hein. En général, c'est 30% du budget électricité de votre commune. Bah oui, c'est comme ça. Et dans l'herbe qui sera forcément très humide ce soir, et dans le silence, sa furette, sa chasse, ça s'active hein, au moment des moissons futures. Ça glapit, ça hulotte, ça ulule, ça défend son territoire, ça brame. Bref, le grand-duc parade avec sa pancarte « Non aux pollutions lumineuses ». Il y en a marre d'éclairer ma falaise pour vos touristes. Et la dame blanche, vous la connaissez, c'est la chouette effraie. Elle rajoute « Vous pouvez carillonner autant que vous voulez, mais baisse un peu la majeur. Pas de lumière dans mon clocher. Donc arrêtez de bousiller le ciel, c'est le seul espace que vous n'avez pas encore réussi à vendre, disent les animaux. Et les chiffres sont formels, il n'y a pas moins d'insécurité dans les rues avec moins de lumière. Donc dans les bois, les collines, sur les hauts bords des haies, peut-être vous regrouperez-vous comme au premier temps des hommes pour chercher la lune, les constellations du destin. Qu'y a-t-il à la télé ce soir ? Eh bien, sur la chaîne de la vie et sans redevance, en plus, il y a la nuit. Et rallumer les étoiles, c'est quand même aussi un très joli projet. Alors nous allons débuter avec une actualité qui se passe un petit peu sous la pluie. On va se retrouver du côté du parvis de l'hôtel de ville dans cette bonne ville de Paris. Et nous allons donc rejoindre Tristram Stuart qui est historien, qui est un homme qui s'intéresse à l'environnement, 35 ans, qui est très connu en Angleterre. Et pourquoi on vous rejoint ? Eh bien parce que vous êtes en train actuellement d'opérer, on va dire, ce banquet des 5000 repas qui met en avant le scandale, on va dire, alimentaire, du gâchis alimentaire. Aujourd'hui, 30%, on le sait. Sur Canal+, le 17 octobre à 20h50, eh bien, aura lieu la diffusion de Global Gâchis, le scandale alimentaire. Donc, comment ça se passe, Tristram ? Bonjour à vous.
Bonjour. C'est vrai, on invite tout le monde de Paris à nous rejoindre tout de suite à la parvis de l'Hôtel de Ville. Pourquoi ? Pour manger une grande curry pour 5000 personnes. Et c'est une curry différente. C'est une curry qui était faite avec les légumes tordus qui auraient été gaspillés. Pourquoi est-ce qu'ils étaient gaspillés ? C'est parce que les grandes surfaces, ils ont les critères cosmétiques très stricts. Disons qu'une carotte ne doit pas être tordue, il faut qu'il soit comme une règle. Donc les agriculteurs, ils les jettent. Et nous les a dit, ne les jette pas, les donnez à nous et on va faire une grande curry. Et ça qu'on va faire. Et on le fait à démontrer au public, aux politiciens, aux grandes entreprises qu'il y a un grand problème, un problème énorme et mondial, c'est le gaspillage alimentaire. Mais surtout, c'est un problème avec des solutions délicieuses, oui. C'est-à-dire à manger la nourriture et ne pas le jeter.
Alors, en ce qui concerne ce gaspillage alimentaire, on peut simplement rappeler une chose, c'est que ça se constate bien sûr dans les pays pauvres au premier stade de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire la récolte et le stockage. Et puis vous l'avez très bien dit, dans les pays riches, ça se situe au dernier stade, en particulier au niveau des consommateurs. Juste une petite phrase, Tristram Soir, s'il vous plaît. Comment vous en êtes arrivé là? Pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet? Quel a été le déclencheur pour vous qui avez 35 ans?
Ça a commencé quand j'avais 15 ans et j'ai acheté des porcs et je les ai fait nourrir avec le gaspillage de nourriture. Et j'ai vu qu'on gaspille la nourriture autour de la chaîne. Et donc, enfin, j'ai écrit le livre Waste. Et puis, on a fait un documentaire avec Canal+, qui sera diffusé mercredi, la semaine prochaine.
Ce mercredi, le 17 à 20h50 sur Canal+, oui.
Oui, c'est ça. Et c'est sur le problème du gaspillage alimentaire mondial et comment on peut l'éliminer.
D'accord. Alors écoutez, on peut très bien vous rejoindre, mais on écoute CO2 Mon Amour en même temps. Ben oui, c'est tout à fait possible, avec un petit transistor peut-être là du côté de l'hôtel de ville. On vous souhaite bonne chance. En tout cas, merci à vous d'attirer notre attention. Global gâchis, le scandale alimentaire. Et Marie-Monique Robin, d'abord, bonjour à vous.
Bonjour.
Ça nous fait vraiment un lien parce que vous êtes journaliste et réalisatrice. Et puis donc, on vous connaît quand même depuis déjà un certain nombre d'années avec, entre autres, Le Monde selon Monsanto, donc, qui était un succès, bon, et qu'on peut le dire carrément mondial. Notre poison quotidien. Et puis là, donc peut-être troisième volet, les moissons du futur. Et c'est vrai que le lien est presque direct. On va parler d'agroécologie, mais par rapport à ce que nous a dit Tristram Stewart.
Ben oui, c'est vraiment formidable que ces deux documentaires se suivent finalement, parce que c'est vrai qu'ils sont complémentaires. Si on ne nourrit pas le monde aujourd'hui, il y a pas mal de raisons. Moi, j'en aborde plusieurs dans mon enquête. Mais l'une des raisons, évidemment, c'est le gâchis. Mais je pense que l'autre raison, c'est le modèle agronomique et économique qu'incarnent les pesticides. Voilà, ça c'est le cœur de cette nouvelle enquête.
Alors, cette nouvelle enquête, elle débute de la manière suivante. Donc, on va pouvoir regarder sur Arte, non pas le 17 octobre, mais le
16 octobre.
Le 16 octobre.
Il y a deux diffusions, 16h55 et 20h50, le même jour.
Donc, 16h55, 20h50, sur Arte, le 16 octobre, ce film, et donc aussi prédire ce livre, Les moissons du futur sur Arte, et qui débute ainsi.
Ne faisons pas croire aux Français qu'on pourra cultiver des pommes, des poires ou des fruits sans aucun pesticide. Ça a toujours existé et ça continuera à exister parce que sinon vous ne produirez pas suffisamment de produits.
Il faut rappeler aujourd'hui qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui totalement alternative aux pesticides. Et d'autre part, comment on nourrit les gens? Je vous rappelle les chiffres, parce qu'on ne les a peut-être pas redit suffisamment. Si on ne produit, si on fait des produits absolument sans pesticides aujourd'hui, 40% de production en moins, 50% de production.
Voilà, donc là, bien sûr, vous avez reconnu Bruno Le Maire, qui était ministre de l'Agriculture à l'époque, Jean-René Buisson, président de l'Association nationale des industries alimentaires. C'était en février 2011, dans l'émission Mots croisés, présentée par Yves Calvi sur France 2. Et donc, il y a ce côté presque Madame Thatcher, Madame Tina, quoi. Il n'y a pas d'alternative, there is no alternative. Ça a été le point de départ où vous avez dit, on va essayer de voir s'il n'y a pas d'alternative.
Voilà, bon, après avoir décrit tous les méfaits du modèle agro-industriel dans mes enquêtes précédentes, c'est vrai que quand j'entends ça sur un plateau de télévision avec des chiffres assénés, la main sur le cœur, 50% de production en moins, augmentation de 40% des prix, vous vous dites, il doit y avoir quelque chose de sérieux derrière tout ça. Hein. Donc ça m'a vraiment motivée de repartir sur les routes du monde, d'autant plus que peu de temps après, 3 semaines après, j'étais à Genève, où j'ai filmé et rencontré Olivier de Schutter, qui est le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, qui a fait un rapport sur l'agroécologie, terme que je ne connaissais pas encore à l'époque, je connaissais l'agriculture biologique, et qui a dit tout le contraire de ce que j'avais entendu 3 semaines plus tôt sur le plateau, qui a dit au contraire qu'il fallait absolument changer de cap, changer de modèle, si on voulait nourrir le monde, et notamment le monde qui comptera 9 milliards d'habitants en 2050. Il a dressé un bilan très sévère du modèle agro-industriel, en rappelant que l'agriculture industrielle participe par exemple à hauteur de 14% dans les émissions de gaz à effet de serre, alors qu'elle devrait être par nature captatrice de carbone. Pourquoi? Parce que les paysans conventionnels, comme on dit, qui pratiquent l'agriculture chimique, utilisent des engrais et des pesticides chimiques qui sont fabriqués à partir du gaz et du pétrole, sans parler de la mécanisation, enfin, etc. Les transports qui sont...
Donc il ressort un bilan négatif, quoi.
Ah oui, 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 ça, il l'a dit très clairement. Alors c'est vrai que d'entendre ces deux points de vue très différents, je me suis dit, là, je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire, c'est comme vous avez dit, une tina, hein, c'était l'expression de Madame Thatcher, c'est there ça. Is no alternative, il n'y a pas d'alternative, eh bien, c'est une espèce de boîte noire, de vérité établie, qu'on entend partout, qui est aussi très moralisatrice, parce que finalement, qui va s'opposer à cet argument qui prétend que si on interdit les pesticides, on ne nourrira pas le monde. Bon, la seule chose qu'on peut dire, c'est que ça ne nourrit pas non plus le monde aujourd'hui, le modèle agro-industriel, parce que je rappelle tout de même qu'il y a 1 milliard de personnes qui ne mangent pas leur faim aujourd'hui. Donc, quelque part, ça ne marche pas trop quand même. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ça m'a vraiment intéressé de voir ce qu'il y avait derrière cette boîte noire. Et j'ai repris mon bâton de pèlerine, j'ai j'allais dire.
Sur, oui, tout à fait. J'ai parti sur 4 continents.
4 continents, oui. 11 pays. J'ai contacté beaucoup d'experts et puis des paysans. Voilà.
Alors déjà, à ce stade de la conversation, donc face à vous, Jean-Paul Charvet. Jean-Paul Charvet est géographe agricole et rural et il vient de sortir, donc aussi professeur émérite à Nanterre, comme on dit. Et vous venez de sortir donc l'Atlas de l'agriculture aux éditions Autrement. Comment nourrir le monde en 2050? Donc on ne va pas faire forcément là, aujourd'hui une émission sur la faim dans l'absolu parce que ça mériterait un développement complet. Mais déjà à ce stade, peut-être petit constat aujourd'hui. Et voir si effectivement notre modèle productiviste est au bout de son propre système économique, environnemental. Quel est un peu l'état de votre réflexion?
Oui, bonjour à tous. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'on ne peut pas se passer des pesticides. Alors, on peut les réduire d'une manière très sensible leur utilisation. C'est déjà fait d'ailleurs assez largement. Mais il y a une étude scientifique, elle, qui n'est pas politique, qui a été faite par l'INRA, qui s'appelle Ecophyto, où on voit très bien qu'on peut réduire les pesticides de 30% à peu près, et qu'au-delà, ça ne marche plus, parce que la durabilité aussi, elle y est liée au fait que les agriculteurs ne fassent pas faillite. Hein, donc, à partir de là, s'il n'y a plus d'agriculteurs ou s'il n'y a plus de successeurs agriculteurs, on va passer à autre chose.
Et on est quand même dans un système d'énergie fossile à la base.
Oui, bien sûr.
Ce qui n'était pas le cas, enfin, ce qui n'est pas le cas dans l'agroécologie. Alors, je ne sais pas, Marie-Monique Romain.
Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que je viens d'entendre, bien évidemment. Parce que quand je suis partie sur cette enquête, évidemment, j'espérais qu'il y avait un modèle alternatif à ce modèle agro-industriel, qui pour plein de raisons a montré ses limites. Les rendements sont en train de baisser en Europe à cause du réchauffement climatique, la crise de la biodiversité, la crise sanitaire, tous les paysans malades dont j'ai parlé dans l'enquête précédente, la crise de l'eau, l'environnement, enfin, etc. Donc, les limites sont largement atteintes. Et encore une fois, on a bien vu que on n'est pas parvenu à nourrir le monde, parce que je répète qu'il y a 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Et donc ça, j'espérais qu'il y avait un modèle alternatif qui marche. Mais je dois vous dire que quand je suis partie, j'avais complètement admis ce qu'on entend toujours, c'est-à-dire que il y a l'agriculture biologique, pour faire simple, parce que l'agroécologie, c'est plus complexe, oui. C'est plus complet que
on,
ça.
On va y revenir.
On y reviendra, oui. J'imagine. Hein. En tout cas, je m'étais dit, on va perdre des rendements. Et je sais très bien ce que sont les rendements, parce que je suis moi-même née sur une ferme dans le Poitou-Charentes. C'était l'obsession de mon père.
Et ça dans les Deux-Sèvres.
Dans les Deux-Sèvres. Ça a été longtemps l'obsession de mon frère. Heureusement, il est en train de changer de cap. Et je m'étais dit, oui, mais en même temps, toutes les externalités, c'est-à-dire ces coûts directs, indirects, qui ne sont jamais prises en compte pour fixer le prix des matières agricoles, c'est-à-dire la pollution des eaux, ce que ça coûte à la société de décontaminer, les algues sur les plages, etc. etc. Et bien, si on a une vision globale, on y gagnera. Mais même l'histoire des rendements, je dois dire que moi, je suis revenue de ce tour du monde complètement étonnée par ce que j'ai découvert, parce que le problème dans tout ce sujet, c'est le sol, c'est la qualité du sol.
Ce que j'ai vu, c'est de revenir à l'agronomie.
Voilà, c'est de revenir à l'agronomie. Et d'ailleurs, il y a une étude qui vient de sortir récemment, qui a été faite par l'INRA, par un chercheur qui a pendant 10 ans fait des grandes cultures de céréales dans la région de Dijon sans aucun herbicide. Et ça marche très bien, très bien. C'est une étude tout à fait récente qui vient de sortir là récemment. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que ça marche très bien et les rendements sont similaires, voire supérieurs. Vous verrez sur la ferme allemande comment le paysan allemand, avec son père, qui est passé du système conventionnel au système agroécologique, a des rendements
alors,
tout à
écoutez,
fait...
Écoutez, puisque nous sommes sur la ferme allemande, hein, je me tourne là vers mon réalisateur, Christophe Imbert, et nous allons donc partir en Forêt-Noire. Nous allons écouter donc, cet homme-là qui a fait donc, sa conversion déjà depuis un certain temps. Et voici donc ce qu'il dit.
Le seigle fabrique beaucoup de matières sèches et donc de carbone. Le trèfle est une légumineuse qui fixe l'azote de l'air. Or, le carbone et l'azote constituent la base de l'humus. C'est donc un mariage de plantes qui se complètent parfaitement et qui ont différentes fonctions, comme celle de protéger le sol. Le sol est protégé contre les agressions mécaniques, telles que la pluie, le vent, les rayons du soleil, contre la transpiration. On a une meilleure gestion de l'eau, ce qui est très important, surtout dans les régions sèches. Avec notre système, nos rendements sont similaires. L'année dernière, ils ont même été plus élevés. Parfois, ils sont un peu inférieurs. Ça dépend des conditions climatiques.
Voilà, donc extrait du film et de l'ouvrage, donc Les moissons du futur de Marie-Monique Robin, donc chez Arte, Arte Éditions, comment l'agroécologie peut nourrir le monde. Donc c'est intéressant de vous avoir, Jean-Paul Charvet. Dans cette émission, il ne s'agit pas de se dire d'un côté, il y a les gentils bio, il y a les gentils agroécologiques, il y a ceux qui font des pesticides et tout ça, mais expliciter un petit peu cela. C'est-à-dire que pour vous, on peut diminuer jusqu'à 30%, si on est bien d'accord, 30-40%.
Ah, c'est pas moi, hein. c'est les experts de l'INRA. Moi, je ne suis pas du tout expert de l'INRA.
Ça, d'accord. Non, oui, d'accord, mais vous êtes appuyé quand même. Sur,
j'ai lu
sur leur constat, mais alors où en est-on? Qu'est-ce que l'on peut espérer au-delà évidemment du modèle organisationnel qui va passer par la PAC. Bon, mais actuellement en France on est un peu crispé sur deux modèles. Donc où en est-on? Est-ce que ça va être demain le mélange de tous ces modèles qui vont réussir à cohabiter?
Ben, écoutez, moi, ce qui me semble évident, bon, il y a toujours un problème d'échelle dans tout ça, un problème d'échelle géographique. Hein, à partir d'un exemple, qui est ce qu'il est, est-ce qu'on peut généraliser tout d'un coup à l'ensemble de l'agriculture de la planète? Ça me paraît un peu court, hein, comme raisonnement. Hein.
Parce que, ce n'est pas un exemple, monsieur.
Alors, même 10, est-ce qu'on va pouvoir généraliser à plus d'un milliard d'exploitations agricoles?
Oui, moi je veux bien expliquer pourquoi et comment. Oui,
moi ça me pose un gros problème auquel j'ai été toujours confronté pendant l'époque où j'étais enseignant, c'est le problème du changement d'échelle. Parce que ce qui est vrai à une échelle peut se révéler faux à une autre. Et ça c'est un vrai problème épistémologique pour les géographes. Hein. Mais laissons-le de côté ce problème épistémologique. Pour répondre à votre question... je pense qu'on aura besoin de tous les types d'agriculture. Parce que les besoins à venir sont tellement énormes qu'on ne peut condamner a priori aucun type d'agriculture. Au contraire, il faut tous les encourager. Je rappellerai simplement un chiffre. La population de la planète va passer entre aujourd'hui 2012 et 2025, elle va augmenter d'un milliard de personnes. Le terrien moyen, c'est une abstraction, hein, bien sûr. Il consomme 330 kilos de céréales par an. Alors, de toutes les manières, hein, même d'une manière indirecte, au travers des poulets, des porcs, etc.
Ça, c'est la moyenne, même si ça doit faire 5 fois plus dans les pays occidentaux et beaucoup moins dans les pays pauvres.
Ça ne fait pas 5 fois plus dans les pays occidentaux, quand même. Hein, mais ça peut faire 3 fois plus.
D'accord. Hein.
Bon, donc, vous voyez, 330 kilos par terrien. Bon, imaginons, alors on fait une projection en disant, bon, rien ne change. Ça veut dire que, En 2025, il faudra pouvoir produire 1 milliard multiplié par 330 kilos, c'est-à-dire 330 millions de tonnes de céréales en plus qu'aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'on reste toujours avec
330 millions de tonnes de céréales, c'est pas rien, c'est la production céréalière des États-Unis. Mmh. Donc il faut créer quelque part un clone des États-Unis, mais comme ce n'est pas ce qu'on va faire, il va falloir que tous les paysans de la planète retroussent leurs manches, si on reste dans le système actuel, hein. Et produisent davantage.
Alors justement, il faut que surtout pas qu'on reste dans le système actuel et qu'on adopte un autre modèle. On découvre dans le film, par exemple, comment l'agroécologie... Donc, je voudrais expliquer en quelques mots ce que c'est que l'agroécologie. Parce que
alors moi, vous savez pas ce que je vous propose. On a un homme qui s'appelle Pierre Rabhi, que vous connaissez, qui va peut-être, effectivement, à sa manière, parce que l'intérêt de Pierre Rabhi, c'est qu'il dit ce qu'il a fait, lui aussi. Et donc, on va le retrouver en Ardèche. Il va nous donner sa définition de l'agroécologie et ça n'empêche pas, évidemment, de compléter avec vous, Marie-Monique Robin.
Dans un premier temps, quand j'étais ici, moi, je faisais de l'agriculture biologique. Voilà, tout simplement. Ouais. Et quand je me suis retrouvé au Sahel, où là, dans les années 70, il y a eu des sécheresses terribles.
Et donc, l'agroécologie, vous dites que ça peut être une porte de sortie ou plutôt une porte d'entrée tout à fait intéressante parce qu'en fait, on est au-delà d'une technique aussi avec l'agroécologie.
Alors, qu'est-ce que c'est que l'agroécologie ? L'agroécologie, j'achète pas d'engrais chimiques. Je vais fertiliser mon sol, non pas avec du fumier frais ou de l'engrais chimique, mais je vais le fertiliser avec une matière organique que j'aurais fait fermenter. Et ça rejoint ferment bactérien, concentré voilà. Bactérien. Les sols dans ces pays-là sont des sols non seulement qui ont été détruits par la sécheresse, mais en plus, vous avez le rayonnement solaire qui finalement stérilise les sols jusqu'à 25, 30, 40 cm par l'échauffement. Voilà. Donc, il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus de faune, il n'y a plus d'éléments. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec cet apport-là ? Eh bien, je vais redonner à la terre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce compost qui est proche de l'humus. Et vous savez que l'humus, c'est l'élément clé de la vie. D'ailleurs, c'est humus, humanité, humilité, humidité, c'est la même chose. C'est la même étymologie. Donc, ça, non seulement c'est une matière, mais c'est aussi quelque chose qui est d'un ordre symbolique du rebond de la vie.
Alors, on va peut-être aller voir, je ne sais pas, peut-être un bout de... Là, on est dans votre petit champ d'olivier.
Donc, l'agroécologie, quand j'ai fait mon retour à la terre, je n'en avais aucune idée. J'ai été ouvrier agricole pour apprendre vraiment, et c'est là que j'ai découvert finalement les exactions commises contre la nature par l'apport massif de pesticides, ce qu'on met dans la terre, ce qu'on projette, c'est les organochlorés, phosphorés, etc. Et donc c'est un peu philosophiquement cette question-là qui m'a amené à dire je veux être en harmonie avec la nature, je ne veux pas être un ennemi de la nature et un destructeur de la nature.
Vous avez beaucoup de gratitude parce que lorsqu'on marche, vous regardez régulièrement le sol, un peu comme ça pour le sculpter, parce que pour lui dire comment vas-tu.
Oui, disons que quand je suis arrivé, petit saharien, vous savez, je me suis retrouvé dans cette terre de Cévennes, rocailleuse. Alors je m'y suis retrouvé par rapport à l'ambiance générale de la rocaille, du minéral dominant. Hein. Il y a du végétal aussi, heureusement, pas mal de végétal. Et donc cette terre, je dirais qu'elle m'a adopté, je l'ai adopté, on s'est apprivoisé mutuellement. Oui. Je l'ai beaucoup travaillé, mais en la régénérant avec force compost, force travaux raisonnés, de façon à ne pas bouleverser sa structure ou dénaturer ce qu'elle était. Oui. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que cette terre s'épanouit. Et elle nous faisait des offrandes chaque année de plus en plus importantes. Alors qu'est-ce que c'est que l'agriculture biologique ? C'est pas aller chercher des sacs d'engrais chimiques, etc. C'est se reconnecter à cette énergie extraordinaire de la vie. Il y a ce que j'ai planté ici, puis il y a ce que je n'ai pas planté. Oui. Les chênes qui sont là, moi je passe jamais mon temps à les biner pour dire il faut qu'ils s'entretiennent tout seuls. Donc qu'est-ce que je fais ? J'essaye de voir que ce que la nature a fait jusqu'à maintenant. Je suis à l'école de la nature et je me dis, le sol, il a une structure, il ne faut pas la détruire. Elle s'est constituée. Qu'est-ce que je vais produire ? Je vais produire un cheptel formidable que sont les bactéries. Mon tas de compost, ça va être un concentré de bactéries. Si j'ai bien fait les choses, j'ai bien obtenu ce concentré. C'est des milliards de milliards de milliards. Et ces bactéries, je vais les mobiliser à donner de la vitalité à mon sol.
Elles vont faire le travail.
Elles vont faire un énorme travail. C'est un peu comme nous, quand nous avons été traités aux antibiotiques, on nous dit qu'il faut prendre des levures, etc. Qu'est-ce que je fais avec du compost ? J'apporte des ferments bactériens qui vont donner à ma terre son métabolisme et sa force. Et en plus, je vais avoir des substances nobles, chimiques nobles, des oligo-éléments, toutes sortes d'éléments, et se concentrer en quelque sorte que je vais amener à ma terre, eh bien, c'est ce qui va lui donner une puissance, disons, qui est celle de la vie.
Pierre Rabhi, donc très grand petit homme qui n'est pas un rêveur, hein, son discours est toujours étayé par une expérience et qui teste ceci depuis une cinquantaine d'années, donc c'était chez lui. C'était pas exactement la même période, hein, on sent bien avec les oiseaux, tout ça, là c'était pas du tout dans un mois d'octobre pluvieux, non, c'était donc chez lui en Ardèche. Alors, peut-être petite réaction, parce que vous étiez parti sur la définition, je vous ai un peu arrêté parce que Pierre Rabhi allait nous parler d'agroécologie.
Oui, mais j'ajouterais quelque chose par rapport à ce qu'a dit Pierre, je connais sa ferme, j'y suis allé. Et vous verrez dans le film que l'agroécologie, c'est effectivement le savoir-faire des paysans. Alors, Pierre est un exemple parfait. il sait très bien comment reconstituer les sols qui ont été complètement détruits par les produits chimiques. Le taux d'érosion de nos sols, 20% des terres actuellement dans le monde, et notamment celles qui ont appliqué les méthodes de l'agriculture industrielle, sont complètement détruites. On ne peut plus rien faire pousser sauf à rajouter des engrais et des engrais et des engrais. Donc voilà. Mais ce n'est pas que les savoir-faire des paysans qu'il faut retrouver, qu'on a beaucoup perdu dans nos pays. C'est aussi de la science. Et c'est contrairement à ce qu'affirme l'industrie chimique, justement, quand elle dit que c'est un retour à l'âge de pierre, etc. Vous verrez dans le film comment, par exemple, au Kenya, un scientifique qui a gagné beaucoup de prix académiques, qui est d'origine indienne, mais qui a fait toutes ses études aux États-Unis, a inventé une méthode qu'on appelle le push-pull, attraction-répulsion, où il a identifié des plantes parmi 600 végétaux africains, qui, il en a retenu deux. La première, c'est le desmodium, qui est une légumineuse. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que c'est une plante qui a la capacité de fixer l'azote de l'air. Donc, c'est un engrais. Elle donne de l'engrais naturellement au sol. Elle a aussi la capacité de repousser la pyrale du maïs. C'est ce petit insecte, vous savez, qui détruit les récoltes de maïs. Et on en a beaucoup parlé parce que Monsanto a inventé un OGM, vous savez, qui est censé la détruire. Voilà. Eh bien, vous verrez comment le desmodium repousse la pyrale du maïs, et autour du champ on plante une autre plante qui s'appelle l'herbe à éléphant, qui a la capacité d'attirer la pyrale, et en plus quand la pyrale pond ses œufs sur ses feuilles, eh bien les larves meurent. Et vous avez voilà là une méthode de contrôle biologique très sophistiquée, parce que ce docteur Kahn par ailleurs travaille sur la communication entre les plantes. C'est vraiment la science du futur, et comme il le dit très bien lui-même, la chimie c'est le passé, c'est ringard, c'est ça qui est ringard, c'est la chimie. Donc il faut savoir comment les plantes communiquent entre elles, entre insectes et plantes. Donc ce que je veux dire par là, et le résultat dans le champ de ce pays paysans kényans et des 50 000 paysans qui ont adopté le push-pull en un an et demi. Et là, en ce moment, ça fait boule de neige, évidemment, si j'ose dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige là-bas. Mmh. Eh bien, il a multiplié ses rendements en maïs par 10, a éliminé totalement une mauvaise herbe très, très mauvaise, c'est qu'à le dire là-bas, le striga, qui s'appelle aussi l'herbe des sorcières, parce que le desmodium permet de détruire les racines de l'herbe des sorcières, multiplié ses rendements par 10. Il est dans un modèle de développement totalement durable. En 4 ans, ce paysan, mais ils sont 50 000 autour, on voit d'ailleurs une journée porte ouverte où ils échangent leur savoir, a pu se faire construire une maison, envoie tous ses enfants à l'école en 4 ans. C'est très spectaculaire. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que l'agroécologie, ce sont des savoir-faire paysans en collaboration avec des scientifiques. Et comme le disent plusieurs experts dans le film, malheureusement, nous avons perdu 50 ans. Nous n'avons aucune recherche, véritablement, il y en a un petit peu. Je viens d'apprendre que l'INRA a créé une chaire d'agroécologie, je m'en réjouis. Mais on a perdu 50 ans de recherche dans ce domaine parce qu'on a dépensé des fortunes pour développer des produits toxiques qui développent des résistances dans les insectes. Dans le film, il y a un grand céréalier américain, vous verrez, qui est au bout du rouleau, qui n'en peut plus, qui a 500 hectares de soja transgénique.
Il le dit très clairement, il
est désespéré, ouais. Je ne sais plus comment faire, les mauvaises herbes sont résistantes. Voilà, donc c'est ça, je termine, c'est aussi, et c'est la dernière chose que je voulais dire, et pour cela Pierre a tout à fait raison aussi, c'est une agriculture à hauteur d'homme, évidemment, où on soigne les écosystèmes, on rétablit de l'équilibre dans les écosystèmes, donc ça veut dire replanter des arbres. Là, il y a un travail excellent qui est fait par un chercheur de l'INRA, Christian Dupras, dont je parle, qui enfin va commencer à être écouté. Plantons des arbres au milieu des champs de blé, je n'en dis pas plus, il faut voir le film ou lire le livre.
Là, c'est l'agroforesterie.
L'agroforesterie, ça peut être une technique, donc contrôle biologique. Il y a plein de techniques différentes, parce que l'agroécologie, ce n'est pas un bidon qu'on déverse dans tous les champs du monde, n'est-ce pas ? C'est plein de techniques différentes qu'on peut développer en collaboration avec les chercheurs et sur des fermes à hauteur d'homme, parce que ce qu'on découvre, et j'en finis, c'est que la productivité des petites fermes est 5 à 10 fois supérieure à celle des grandes fermes où le gâchis est organisé à tout point de vue.
Alors là, on sent bien évidemment des cultures qui sont différentes. On va revenir avec vous, Jean-Paul Charvet, aussi, parce que vous avez cette science donc des échelles. Aujourd'hui, on va rappeler que l'on a 1,5 milliard d'hectares de terres arables. Qu'est-ce qu'il faut faire après si on doit continuer cette fuite en avant? Ça veut dire qu'il va falloir déforester, continuer à déboiser encore plus. Donc voilà, on met les choses. On va dire que c'est un peu le sens commun et la fuite en avant, donc j'aimerais aussi avoir l'avis de Jean-Paul Charvet. On va s'offrir une petite pause musicale avec un homme qui s'appelle Serge Gainsbourg, qui débute dans la chanson, et on a trouvé cette Mambo Miam Miam. Oh oui, ça va bien ça.
Un anthropophage qui avait dans l'idée de m'empoisonner. Il me disait, petite tête, ôte-toi de la cumimette. Je me suis résigné à le bouffer le premier mambo, miam miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Sauvage ou pirate, on se tire dans les pattes et le moins malin peut crever de faim. Soldat ou artiste, on est tous des tristes cirés malheureux qui manquent d'estomac. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Dans ma garçonnière, misère de misère, la femme du voisin se fait couler un bain. Quand la mienne se déhanche, j'ai le cœur qui flanche de voir les autres tudieux. La bouffée des yeux, mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Viendra le jour, certes, où la gueule ouverte, comme ça, de but en noir, j'irai me faire voir. Je ferai des orphelines, et par la racine, je vous ferai les orties et les pissenlits. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam.
Miam. Oui, une chanson de 1959, pendant que nos invités continuaient à parler de Serge Gainsbourg. 1959, souvenez-vous, nous étions à peu près 3 milliards d'individus sur Terre. Nous sommes 7 milliards. Nous serons en gros, et là les démographes sont à peu près d'accord, 9 milliards d'individus sur Terre en 2050. Nous avons des modes de vie, on va juste le rappeler, où lorsqu'une société, on va dire entre guillemets, sort de la misère, eh bien, consomme davantage de viande aussi. Et me semble-t-il, on doit à peu près avoir l'élevage va absorber un tiers des céréales mondiales aujourd'hui. Alors, par rapport à ce que disait Marie-Monique Robin, donc toujours en direct sur France Inter, c'est au de mon amour, Jean-Paul Charvet, donc géographe, auteur de cet excellent atlas de l'agriculture. Vous disiez qu'il y avait quand même quelques petits points communs quand même avec Marie-Monique Robin, en l'écoutant.
Ah bah oui, heureusement. La preuve, c'est que nous sommes dans le même studio.
Oui, non, mais vous n'allez pas vous empailler, on va regarder la paille pour autre chose.
Ce que je disais, pour la rejoindre sur un point, c'est qu'effectivement, regarder du côté des savoir-faire paysans, mais d'une manière scientifique, c'est une des voies de l'avenir.
Oui.
C'est vraiment une
qui est déjà engagée, d'ailleurs.
Une voie qu'il faut encourager. Sauf que ça ne suffira sans doute pas. Parce que on nous dit, il y a un de mes collègues qui nous dit « Ah, mais l'agriculture biologique peut... » Alors, je sais bien que l'agroécologie, ce n'est pas l'agriculture biologique. L'agriculture biologique peut nourrir la planète. Mais on se demande comment. Parce que regardez ce qui se passe en France aujourd'hui, où l'agriculture biologique est très dynamique. Elle progresse très vite. Elle occupait 3% des superficies il y a peu de temps. Elle en est à 4%. Alors, ceci étant dit...
On va arriver à 10. On va arriver à 10.
Le vrai... D'après le ministre, non. Parce que
ce n'est pas de politique pour encourager la transition, on n'y arrivera pas.
Non, on avait fixé dans le Grenelle de l'environnement un objectif de 20% des superficies en bio en 2020. Et là, notre ministre, M. Le Foll, donc pas l'ancien, le nouveau, qui connaît bien l'agriculture, a dit « Bon, bah, écoutez, on va fixer l'objectif à 8% en 2018 ». Donc là, quand même,
ça calme.
J'oserais dire, ça calme certains enthousiasmes. Alors, ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas encourager l'agriculture biologique. J'en ai fait, moi. Donc, encourageons-la. Mais c'est quand même pas si évident que ça de faire du bio. Et j'aurais tendance à penser qu'on ne fait bien du bio que quand on maîtrise bien l'agriculture conventionnelle. C'est ce que je pense. Alors, on peut le discuter, ça.
Oui, ça peut se discuter.
Moi,
ce sera une autre émission.
Voilà, non, mais ce que j'ai vu ne vous donne pas forcément raison. Par rapport à ce que vous dites, attention, faisons bien la distinction entre l'agriculture biologique et l'agroécologie.
Oui,
j'insiste là-dessus parce que dans le modèle agroécologique, c'est réintroduire la biodiversité, c'est arrêter les monocultures. ou les spécialisations à outrance. On arrête de faire des cochons en Bretagne et des céréales dans la Beauce, hein, avec tout ce que ça génère comme problème, qu'il faut faire venir du soja de tourteau OGM d'Argentine, etc., etc. On réintroduit les biodiversités, donc des arbres, des animaux, et on, des assolements, pour ceux qui savent pas, enfin, en tout cas une polyculture, n'est-ce pas ? Ce qui permet, moi je vous assure que j'étais très surprise par ce que j'ai découvert sur le terrain. C'est-à-dire que tous ces paysans que j'ai vus dans tous les continents, y compris l'allemand qui est proche de nous, ou au Japon, un autre pays développé, on va dire, hein, eh bien, ils n'ont aucun problème de ravageurs, ni aucun problème de mauvaises herbes. Mais à condition, attention, hein, je ne dis pas que ça peut s'obtenir, hein, à condition de vraiment soigner son sol, de redévelopper l'humus et des associations de plantes. C'est pour ça que la science est très importante, parce que selon les terroirs, ce n'est pas les mêmes plantes qu'il faut, il faudra planter pour repousser tel ravageur. Vous voyez ce que je veux dire ?
Tout à
Donc,
fait.
Je veux dire que si on développe une véritable volonté politique pour accompagner cette évolution. Donc, encourager les scientifiques à sortir de leur tour d'ivoire et les agronomes de leur station d'essai. Excusez-moi, c'est un peu sévère, mais il y a déjà un agronome qui vous a précédé, qui s'appelle Albert Howard, qui a écrit le Testament agricole et qui dit déjà en 1940, sortez de vos stations d'essai, allez dans les champs avec les paysans. Si on développe la recherche, et dans le film, j'ai un expert onusien qui le dit très clairement, il faut rattraper 50 ans de retard dans ce domaine. Vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas dépensé beaucoup d'argent pour aller dans le sens du push-pull dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple. Encourageons les scientifiques à travailler dans ce domaine. Développons de la recherche avec les paysans. Donc dans ce modèle qui est plus complexe que l'agriculture biologique, parce que si ce n'est l'agriculture biologique ne se réduit qu'à ne pas utiliser des produits considérés comme toxiques, d'accord ? On ne change absolument rien dans le système. On peut faire de la monoculture intensive de tomates bio. Vous
Alors,
voyez ce que
je vous propose, il y a deux termes que j'ai vraiment envie de découvrir. C'est l'agriculture raisonnée. Vous allez pouvoir effectivement en parler, parce que ça, on va dire que l'agriculture conventionnelle, mais qui évolue aussi, en parle régulièrement dans les médias. Donc ça, Jean-Paul Charles, vous allez répondre. Et puis, je vais demander à Bruno Parmentier, qui est un homme qui est ingénieur, économiste, ancien directeur de l'École supérieure d'agronomie d'Angers, ce qu'est l'agriculture écologiquement intensive. Ça aussi, c'est arrivé sur nos tables. Donc, qu'est-ce que l'agriculture écologiquement intensive ? D'abord, réponse de Bruno Parmentier.
Il faut augmenter. À l'échelle mondiale, il faut augmenter de 70% la production agricole mondiale. Il faut intensifier maintenant les processus écologiques, exactement comme avant, on intensifiait les processus artificiels. Avant, on intensifiait le tracteur, on intensifiait l'engrais, on intensifiait le pesticide, on intensifiait le pétrole. Maintenant, il faut intensifier le ver de terre, la bactérie, les mélanges de plantes, les plantes avec les arbres, les plantes avec les arbres, les rotations, etc., etc. Cette agriculture doit être écologique, c'est-à-dire d'abord basée sur la nature, les processus naturels et non pas sur les processus artificiels, mais aussi intensive, parce que il faut quand même tripler la production agricole en Afrique.
Ça veut dire qu'on travaille, la clé de tout, c'est le sol.
Au commencement, faut déjà arrêter de labourer. Un champ marron, c'est une hérésie. On n'a pas assez de rayons du soleil, on n'a pas assez d'énergie. Tout rayon du soleil, quel que soit le mois où il arrive, quand il nous fait l'honneur d'arriver sur un champ, c'est pour fixer du carbone et de l'azote. On ne peut pas, 4 ou 5 mois par an, laisser les rayons du soleil inoccupés. Il y a des gens qui labourent beaucoup mieux que le tracteur, c'est le ver de terre. Dans un champ où on a aimé les vers de terre, il peut y avoir jusqu'à 5 tonnes de vers de terre. Ils ne sont pas syndiqués, ils travaillent jour et nuit. Ça remue la terre, 5 tonnes de vers de terre. Quand on voit les vaches sur un champ, il faut imaginer qu'il peut y avoir plus de poids de vers de terre dessous que de vaches au-dessus. Et puis, en plus des vers de terre, il y a tout le reste. L'agriculteur nouveau, écologiquement intensif, il commence par vendre sa charrue. C'est-à-dire, il n'est plus un laboureur, il est un éleveur de vers de terre.
Alors Bruno Parmentier, quelle différence est-il avec le bio ?
Le bio, ça consiste à dire, c'est assez radical, chez moi, il y aura 0 pesticides. Bon, mais le bio, pour le moment, ça représente 3% des terres, peut-être 4, à terme 5 ou 10. Il faut s'occuper des 95%. Et dans les autres 95%, notre agriculture est très productiviste, mais elle est très fragile, parce qu'elle dépend de notre capacité à continuer à piller les ressources de la nature. Or, les ressources de la nature, ça y est, on est vraiment au bout. Si le prix du pétrole triple, notre agriculture est à genoux. Et le coup d'après, c'est dire il faut utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de ressources non renouvelables de la planète. Et puis le jour où ça ne marche pas, eh ben on met quand même un petit coup de pesticide parce qu'il faut quand même manger. Oui. Au Grenelle de l'environnement, ils ont dit par exemple 50% de moins de pesticides dans 10 ans. On n'y arrivera pas, mettons qu'on arrive à 35 ou 40, c'est déjà pas mal. Mais une fois qu'on sera à 40, on dira un autre Grenelle ou on l'appellera autrement, on dira ben maintenant c'est de nouveau 50% de moins. Et de toute façon, ça va être moins parce que les pesticides, c'est que de l'énergie, etc. Alors par exemple, quand je dis aussi on ne laboure pas, il n'y a pas que les vers de terre. Il y a quelque part des champignons qui font des filaments qui font 4, 5, parfois 6 ou 7 mètres de long.
La clé du sol, on va le rappeler, voilà. L'humus, c'est le champignon.
Voilà, c'est le champignon. Quand on met le soc de charulette du banc, on coupe tout ça. Eh ben, il faut laisser le sol couvert en permanence pour faire le gîte et le couvert de toute cette nature qui va le rendre fertile. Eh ben, on va vendre le conseil parce que ça va être une agriculture très prise de tête. Oui, avec énormément de plus-value intellectuelle. On va vendre le conseil et le jour où notre conseil n'a pas marché, on va offrir le pesticide. Alors c'est complètement différent d'un système actuel où on vend le pesticide et on offre le conseil. Et regardez, bon, il y a 600 000 agriculteurs en France. Si l'Europe se dit, allez, je subventionne tous ceux qui veulent faire une expérimentation sur 1 ou 2 hectares, mettons qu'il y en ait 50 000 qui disent, top là, 50 000 essais, c'est pas rien. L'INRA, elle n'arrive jamais à faire ça.
Bruno Parmentier donc, a écrit « Nourrir l'humanité » aux éditions de La Découverte, c'est en poche. D'ailleurs, c'est votre co-éditeur, hein, Marie-Monique Robin,
oui,
avec les moissons
du futur. Je cite d'ailleurs son livre
oui,
dans le mien.
Fait, voilà. Oui, non, mais c'est tout à fait intéressant. Alors là, aujourd'hui, en fait, il y a une coopérative qui s'appelle une grosse coopérative en Bretagne, hein, dans l'ouest de la France, donc, qui s'appelle Terena, avec 22 000 agriculteurs qui se lancent dans cette agriculture écologiquement intensive. Je ne vous dis pas que c'est la majorité de l'espèce qui est encore concernée. Et est-ce que d'ailleurs aussi, Jean-Paul Charvet, dans les lycées agricoles, ça c'est quand même la clé aussi, on a besoin. L'agriculture, de toute façon, c'est la clé de voûte de la société de demain. Donc, on a besoin de cette agriculture et ce métier est absolument formidable. Après, c'est peut-être les organisations sur les, qui sont contestables. Mais est-ce qu'on enseigne aujourd'hui ces méthodes-là ou...
On ne les enseigne pas suffisamment, c'est clair. Parce que l'agriculteur du futur, ça sera un agriculteur qui aura un niveau de technicité bien plus élevé que l'agriculteur actuel. Sauf que ça, vous nous donnez l'horizon 2025, mais c'est déjà dans les tuyaux. Hein. On voit déjà à peu près à quel type d'agriculteur on aura affaire. Hein. Et donc, c'est vrai qu'il faut renforcer la formation technique, agronomique des agriculteurs. Mais je pense que là, maintenant, les gens en ont conscience. Alors, ce que je voudrais dire aussi, pour ne pas donner une image trop négative de ce qui se passe, c'est que si vous allez vous promener en ce moment dans la campagne autour de Paris et que vous allez voir les secteurs où on a moissonné du blé au mois de juillet, vous allez trouver là des cultures de couverture. Hein, les agriculteurs ont mis en place des engrais verts hein, qui seront retournés au printemps quand ils mettront derrière du maïs, par exemple.
Mm-hmm. Oui, mais ils vont labourer.
Donc, ils vont labourer. Alors, le problème du labour, le voici. C'est, OK, on ne laboure pas, c'est possible. Mais comment on se débarrasse des mauvaises herbes ?
Regardez le film, les Allemands dont
on parle. Ah, je ne l'ai pas encore vu, excusez-moi.
On a eu un extrême, on n'a pas expliqué qu'ils font ce qu'on appelle des techniques culturales simplifiées. Ils ne labourent pas, ils ont un couvert végétal permanent. En l'occurrence, quand je les ai filmés, moi, au mois de mai, ils étaient en train de semer du soja au milieu de cultures de seigle et de trèfle. C'est pour ça qu'ils parlent du seigle et du trèfle, parce que l'un important de carbone, l'autre l'azote.
Je connais.
Donc, ils ont conçu une machine, petite machine pas lourde, parce qu'il faut, comme ils disent, très peu remuer le sol, donc c'est pour ça qu'ils ne labourent pas, et qui permet de coucher ces cultures et de semer directement dans le soja, ou de faire du mulch, c'est-à-dire de le couper. Hein. Donc, ils n'ont pas de problème de mauvaises herbes parce qu'ils me disent, nous occupons le sol en permanence. Et donc, elles n'ont pas aucune raison d'être dominantes. On n'a aucun problème, ils l'ont répété, aucun problème de mauvaises herbes. À tel point d'ailleurs que quand ils font des journées portes ouvertes, j'en ai filmé une, c'est des dizaines de paysans qui viennent de toute l'Allemagne parce qu'ils n'en peuvent plus des mauvaises herbes qu'ils ont, eux, en revanche, malgré tous les produits chimiques, parce qu'elles sont devenues résistantes. Et ils voient des champs parfaits. Ils ont une ferme de 33 hectares, hein, je précise, que de céréales. Et aussi de l'oléagineuse, parce qu'ils font aussi du colza. Eh bien, aucune mauvaise herbe. Et les paysans, vous verrez dans le film, qui observent, qui sont venus, qui veulent voir, ne reviennent pas. Les mauvaises herbes, c'est une création de la chimie, monsieur, excusez-moi. C'est une création de la chimie. Et si vous lisez mon livre, vous verrez...
Il y en avait chez ma grand-mère, bien avant les engrais chimiques. Et les pesticides.
Qu'on en ait fait un
problème... J'en ai arraché pendant des vacances entières.
Qu'on en ait fait un problème, c'est à cause de la chimie. Vous verrez des confrères à vous de l'INRA, dont je parle dans mon livre, qui racontent...
C'est pas des confrères.
Pas de l'INRA, enfin des agronomes, en tout cas.
Jean-Paul Charvet, géographe,
d'accord. En tout cas, qui s'intéresse. Vous verrez, les mauvaises herbes deviennent résistantes. C'est ça qui fait le problème. Vous verrez.
Ça arrive, on change de...
Voilà. Et les Vens en Allemagne me disent, nous, quand on a une mauvaise herbe au milieu d'un champ, ce n'est pas un problème. Elle est un problème quand elle est dominante, vous êtes d'accord? Mais moi, elles ne sont jamais dominantes parce que mon sol est toujours occupé par des bonnes herbes que je choisis, moi.
J'ai bien compris votre affaire. Mais Jean-Paul Charvet. Monsieur Chesson nous dit, on parle à l'horizon 2025. Le problème, pour moi, c'est toujours le problème de changement d'échelle. Votre truc, il est parfait. Mais est-ce qu'il est généralisable? Est-ce qu'il est rapidement... Alors, diffusable ou non.
Voilà,
alors, et là on retombe sur le niveau de technicité de l'agriculteur.
Et, sur l'organisationnel.
Et ça, on ne va pas le fabriquer en un jour, le niveau de technicité de l'agriculteur.
Monsieur Charvet, c'est la très bonne question, évidemment. Et moi, je réponds à cette question qui est vraiment absolument légitime. Parce que moi, j'ai vu les résultats. On est d'accord là-dessus. Maintenant, si on veut que ce modèle se généralise et rapidement, pour pouvoir répondre à tous ces défis, vous êtes d'accord avec moi?
Et défis énergétiques, pardonnez-moi.
Alors, défis énergétiques, vous êtes d'accord?
Oui, oui, bien
sûr. On ne peut pas continuer à baser notre agriculture et indexer le cours des produits agricoles sur celui des champs de pétrole et le gaz. On est d'accord? Alors qu'on sait que les pics pétroliers et gaziers sont proches, d'accord? Je parle du réchauffement climatique, etc., etc., de la crise de l'eau, etc. Donc, si on veut que ce soit massif, il faut une volonté politique. Et moi, j'espère que notre ministre de l'Agriculture actuel nous entend, n'est-ce pas, vous comme moi, et que dans ce débat qui est très important en ce moment, qui est la réforme de la PAC, n'est-ce pas, dont j'espère véritablement que ces subventions agricoles qui sont appelées à disparaître, et on découvrira dans le film que c'est une bonne chose parce que ça distord les prix et que c'est l'une des raisons qui explique qu'un milliard de personnes ne mangent pas à leur faim, parce que parmi ce milliard de personnes, il y en a au moins 800 millions, ce sont des petits paysans. Et on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est une partie du film. Bon, et il se trouve que ceux qui vendent des produits chimiques, c'est aussi ceux qui contrôlent le marché des grains. Donc vous comprenez qu'il y a un vrai problème. Et c'est pas fini, la crise alimentaire, on va encore en reparler. Bon, on n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais en tout cas, il faut réorienter les subventions agricoles pour soutenir tous ces paysans qui nous écoutent, j'espère aujourd'hui, comme dans mon Poitou-Charentes natale, qui n'en peuvent plus de ce modèle, où ils travaillent comme des malades, excusez-moi l'expression, pour des revenus totalement aléatoires.
25% des agriculteurs français sont en dessous du seuil de la pauvreté aujourd'hui.
J'ai vu chez moi, j'ai même fait un film en France sur les paysans français qui se suicident parce qu'ils sont trop endettés. Mmh. Il y en a 90% qui n'en peuvent plus de ce modèle. Donc encourageons-les, monsieur, on est d'accord, aidons-les. Et en 4 ans, on change de cap, monsieur.
On est toujours dans le même problème d'échelle géographique. OK, on le fait en France, mais ailleurs.
Mais bien sûr, mais partout, les paysans.
Vous allez convaincre le gouvernement chinois ou le gouvernement indien de se lancer là-dedans? Le gouvernement russe? Là, j'ai des doutes. Hein.
En Afrique, en tout cas.
Chez nous, peut marcher. Hein,
non, mais pas que chez nous. En Afrique, je peux vous dire que le continent, c'est ce continent qui est en train de montrer la voie. Vous verrez dans mon film, je vais dans 3 pays africains. Ce n'est pas une image à laquelle on est habitué en Afrique. Des paysans extrêmement motivés, extrêmement performants. Vraiment, aussi bien en Malawi, au Kenya, au Sénégal. Vous verrez, extraordinaire. Et eux, ils ont compris. D'ailleurs, des responsables, que vous connaissez certainement, le Centre mondial de l'agroforesterie de Nairobi, qui est une grande institution, ou de l'ICIP, qui est l'Institut international de recherche sur les insectes, qui sont des scientifiques internationaux, mais c'est l'Afrique qui nous montre la voie. Ils sont très inventifs parce qu'évidemment, ils ont un problème d'alimentation. Mais bien sûr que l'Afrique est en train de montrer la voie en ce moment.
L'agroforesterie, ils la pratiquent depuis longtemps. Hein. Aller au Burundi, l'agroforesterie, ça fait des siècles qu'ils la pratiquent.
Oui, mais ça s'est beaucoup perdu. Le centre d'agroforesterie mondiale a été créé justement pour pouvoir
replanter des arbres. Non, mais je parle des paysans, je parle des chercheurs.
Et l'association entre... Voilà. Donc on peut... Et arrêtons de dire, c'est vrai, c'est ce que dit Hans Ehren, que vous connaissez peut-être, qui a fait le rapport de l'IASTD, qui est l'un des plus grands rapports de l'ONU récemment, qui montre qu'il faut changer de cap. 400 scientifiques qui l'ont signé, et j'en parle longuement dans mon film, qu'il faut absolument changer de cap. Eh bien, maintenant, arrêtons de tergiverser, prenons les décisions, commençons chez nous, labourons devant notre porte, c'est le cas de le dire, même s'il faut arrêter de labourer, et aidons les paysans de France déjà, et d'Allemagne, et de Suisse. Moi, j'étais au Luxembourg hier, dans un lycée agricole, les 100 jeunes que j'avais devant moi, ils disaient... Vous nous avez convaincus, comment on fait maintenant? Comment est-ce qu'on apprend à replanter des légumineuses? Aidons-les et montrons la voie, nous aussi, parce que les défis à relever sont énormes.
Je vous propose d'aller du côté de Carcassonne, c'est le pays d'origine d'Olivia Ruiz, tout de suite. Voilà.
Je loue des chambres d'hôtel aux étages élevés. Je fixe les quelqu'un de ma fenêtre avant de les capturer. Je les habille de peut-être, c'est l'attraction de les sceller. Je photographie des gens heureux pour pour essayer de leur ressembler. J'admire cet éclat dans leurs yeux, l'étudie pour le développer. Je loue des chambres d'hôtel en étages élevés. J'aime les minois facétieux, leurs sourires écorchés. Maladroits, paresseux, fragiles ou réprimés. Je photographie des gens heureux, sur le papier leur rayon se voit. Je ne trouve rien de plus précieux que cette étincelle ornée de soie. Photographie des gens heureux pour essayer de leur ressembler. J'admire cet éclat dans leurs yeux, l'étudie pour me le développer.
C'est Olivia Ruiz, choisie par Jean-Baptiste Audibert. Et oui, vous l'avez compris, ce débat est animé, et tant mieux. Voilà, donc on va... ce que je vous propose, c'est peut-être de revenir aussi sur votre film, donc Les Moissons du Futur, comment l'agroécologie peut nourrir le monde. Et on va partir au Mexique, très intéressant. Évidemment, c'est le berceau du maïs, il y a plus de 9000 ans. Voir ce qu'on appelle la milpa, c'est-à-dire en fait l'association de différentes plantes.
C'est du maïs local ?
Maïs criollo légitime.
Oui, c'est du maïs traditionnel. Nous n'avons pas perdu les coutumes de nos ancêtres, de nos pères, de grands-pères.
Les herencias de nuestros padres, nuestros abuelos.
Le maïs sirve.
Le maïs sert de tuteur aux haricots.
Entonces lo que hace el frijol.
Quant au haricot, ce qu'il fait, c'est qu'il fixe l'azote de l'air et ensuite il l'apporte au maïs.
Entonces
et les feuilles de citrouille font de l'ombre sur le sol et permettent de conserver l'humidité. Nous avons ainsi des parcelles en parfaite santé et nos résultats sont meilleurs.
Voilà, donc la plante sacrée des Aztèques, et donc avec le traité de libre-échange qui s'appelle l'ALENA, qui a été signé en 1992 entre le Mexique, le Canada et les USA, eh ben ça a donné des petits paysans qui ont été complètement abandonnés aussi.
Ouais, 3 millions de paysans qui quittent l'agriculture. Alors ça, c'est vraiment l'exemple parfait de ce qu'il faut faire quand on veut affamer un peuple, c'est considérer l'alimentation comme une marchandise comme les autres. Ce qu'on comprend dans le film, et que disent plusieurs experts, c'est qu'il faut absolument soutenir les petits paysans, de tous les, alors, y compris dans le Nord comme dans le Sud, hein, évidemment, et qu'il faut cesser de considérer les aliments comme une marchandise comme les autres, donc protéger les productions locales avec des aides directes. Et
non, mais les nôtres aussi.
Et les nôtres aussi. C'est ce que j'ai dit hier dans le lycée au Luxembourg. Parce qu'il m'a dit, et nous alors ? J'ai dit, vous, il faut vous protéger, il faut que vous puissiez faire des légumineuses. Qui me disait, faire des légumineuses, d'accord, ou des protéines végétales, mais c'est quand même beaucoup plus cher que d'acheter du soja transgénique d'Argentine. Et j'ai dit, vous avez la réponse à la question. Il faut revaloriser les paysans, revaloriser les prix qu'on leur paye, en réduisant les circuits de distribution, évidemment, avec des circuits courts, parce que c'est là qu'on récupère la différence. Et on peut mieux rémunérer les paysans. Et évidemment, avoir des prix intéressants aussi pour les consommateurs. C'est ça un petit peu la deuxième partie du film. Parce que, encore une fois, ceux qui contrôlent les marchés agricoles actuellement sont aussi ceux qui vendent les produits. Et comme le dit Olivier de Schutter, le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on enseigne aux paysans à comment se passer de leurs produits, évidemment.
Petit mot de fin, Jean-Paul Charvet.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec la multiplication des circuits courts. Sauf que je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Parce que si on regarde les AMAP en France, c'est jamais que 200 000 personnes. Hein.
Donc, qui sont nourris grâce aux AMAP, hein, c'est
voilà,
ça.
Qui
on en parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est 200 000 personnes.
Bon, alors, ok, continuons à développer, mais je voudrais dire, il y a une longue marche devant nous. Hein. Non, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est qu'en fait, je me remets à l'échelle de la planète,
et non pas
celle du Luxembourg, d'autres régions, de la Savoie qui m'est très chère, bien sûr. Quand on regarde les choses d'un peu loin, on voit que nous sommes face à une double impasse. Hein. Il y a d'une part une impasse technique, qui est celle de l'agriculture productiviste. Et puis, il y a une impasse productive qui est celle du bio. Donc, il va falloir optimiser entre les deux, naviguer entre les deux
et ne pas exclure a priori telle, je dis bien a priori, a posteriori peut-être, mais a priori telle ou telle solution.
Atlas de l'agriculture, comment nourrir le monde en 2050 de Jean-Paul Charvet, le 16 octobre sur Arte, 20h50, les moissons du futur, plus aux éditions La Découverte et Arte Éditions, comment l'agroécologie peut nourrir le monde. Merci aussi Marie-Monique Robin, nous sommes en retard pub.